Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a tout juste un an, devant 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, le président français prononçait son premier grand discours de politique africaine, un discours qui s'adressait à la jeunesse du continent et qui se voulait en rupture avec les pratiques du passé. D'ailleurs, rappelez-vous, il avait d'entrée de jeu affirmé qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France, tout en soulignant un peu plus tard dans son discours que le destin de la France était lié à celui de l'Afrique. Durant à peu près 2 heures, ensuite il y a eu, rappelez-vous, cette mémorable séance de questions-réponses avec les étudiants. Eh bien, durant à peu près 3 heures, le président Macron avait, à l'époque, multiplié les engagements. La restitution des œuvres d'art africaines, la mise en place de visas de longue durée pour permettre aux jeunes diplômés de faire des allers-retours. Il avait promis également davantage d'entrepreneuriat, un partenariat d'égal à égal, l'augmentation de l'aide publique au développement, ou encore, et ça intéresse évidemment particulièrement nos auditeurs au Burkina Faso, la déclassification des documents sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Un an après, la rupture annoncée s'est-elle concrétisée? Peut-on parler d'une nouvelle relation entre la France et les pays africains? 33 9 693 693 70. Vos réactions évidemment sur la page Facebook de l'émission. Allez, je commence avec celle d'Abalo sur Facebook. Une phrase, l'Afrique n'attend rien d'un président français. Voilà ce qu'il nous dit. Et en revanche, Emmanuel nous dit, nous voulons un partenariat d'égal à égal, un partenariat où l'humanisme prend le dessus sur les intérêts égoïstes. Bonjour Prince.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Paris et vous dites que dans les faits, rien n'a changé.
Rien n'a changé, c'est une hypocrisie totale. Et pour être plus concret, je vais vous parler du Gabon. Macron n'est pas responsable de l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir au Gabon. C'est Sarkozy qui l'a mis là, tout le monde le sait. Mais le candidat Macron a eu une lecture très critique de cette imposture. Cependant, il y a une situation nouvelle qui se présente au Gabon, dont il aurait dû se saisir. Ali Bongo disparaît des écrans radars depuis plus d'un mois. Au lieu que la Cour constitutionnelle déclare la vacance du pouvoir, Madame Mobutu réécrit la Constitution et Macron reste muet. Oui.
Mais attendez, Prince, excusez-moi, est-ce au président Macron de s'exprimer? On a entendu le président de la Commission de l'Union africaine, ou plutôt il a rédigé un communiqué qui a été publié, et le président de la Commission de l'Union africaine a rappelé son attachement au strict respect de l'ordre constitutionnel. Rappelez-vous ce que disait le président Macron à Ouagadougou, il promettait de ne jamais de donner de leçons à l'Afrique. La solution ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas non plus du statu quo de vieilles habitudes. Et il disait à la jeunesse, en fait, la solution réside en vous. Vous êtes une partie de la solution, vous, jeunesse africaine. C'est ce qu'il disait en substance à Ouaga.
Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et d'ailleurs, la jeunesse gabonaise a été très réactive sur cette question. Depuis plus de 2 ans, il y a des manifestations publiques qui sont faites depuis la place des droits de l'homme au Trocadéro. Et en fait, la presse n'en parle pas. On fait ces manifestations-là un peu partout dans le monde, à Londres, à New York, à Washington, à Bruxelles.
Revenons à la relation entre la France et les pays africains, et particulièrement avec le Gabon, puisque c'est votre sujet, votre centre d'intérêt. Qu'attendez-vous du président Macron exactement?
Nous attendons que le président Macron ait une position nette sur la violation de la Constitution qu'il y a eu au Gabon. Je veux dire, la déclaration qui veut que la France n'a plus de politique africaine est fausse. Tout le monde sait que c'est la supercherie que la France-Afrique a mise en place.
Bon, c'est votre interprétation, Prince. C'est votre interprétation. Vous dites tout le monde le sait. En tout cas, vous avez l'impression d'en être convaincu. Mais imaginons, allons dans votre logique, Prince, que le président français réagissent et se prononcent sur chaque crise électorale sur le continent africain, sur chaque contentieux politique sur le continent africain. On dirait, mais de quoi se mêle-t-il?
Mais sauf que, en tout cas, c'est la France qui crée cette situation. La France-Afrique a été créée par De Gaulle et tout le monde, personne ne l'a assumé jusqu'ici. Mais regardez la réaction que la France a eue, parce que la France n'est pas restée que muette. L'Élysée a décidé du renforcement des troupes françaises au Gabon pour protéger les installations pétrolières. Et la détresse du peuple gabonais qui crie au complot laisse totalement Macron de marbre. Il y aura inévitablement des massacres de population, comme en 2016.
Prince, vous êtes... Non, alors là, franchement, vous êtes dans le scénario complètement imaginaire. Vous êtes en train de... Voilà, d'avancer des faits qui ne se sont pas encore produits, et vous alimentez, voilà, des rancœurs en tenant, voilà, de tels propos. Voilà, donc je suis désolé, Prince, on vous donne la parole, on discute, on réfléchit ensemble, et vous êtes... voilà, vous poussez la polémique jusqu'à l'extrême. Je vois pas vraiment l'intérêt. Merci en tout cas d'avoir appelé. Bonne journée à Paris. Béranger, bonjour.
Bonjour, Juan, et bonjour, RFI.
Alors, oula, j'espère que le réseau téléphone va mieux passer parce que vous êtes au Congo-Brazzaville, c'est bien ça?
Oui, je suis à Pointe-Noire au Congo.
À Pointe-Noire, ça y est, on vous entend nettement mieux. Vous êtes content, vous, de ce discours de Ouaga, surtout après la remise du rapport concernant la restitution du patrimoine africain pillé par la France lors de la colonisation.
Ouais, depuis l'année dernière, moi personnellement j'étais satisfait du fait que le président Macron ait promis de restituer enfin ses œuvres d'art, je dirais pillées ou encore prises de force par le colon entre 1885 et 1960. Je pense que c'est un pas vers l'avant. Il avait déjà reconnu que la colonisation était qualifiée de crime contre l'humanité, ça sent ses propos à lui. Et je pense que c'est une très bonne affaire que la France aujourd'hui reconnaisse, accepte de restituer ses objets d'art. Alors moi j'ai quelques inquiétudes quant à la capacité des musées africains de conserver ses œuvres d'art.
Ouais. Mais pour revenir justement à cette promesse d'Emmanuel Macron qui est en passe de se réaliser, il y a eu certes la remise de ce rapport vendredi dernier par Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, hein, les deux universitaires mandatés par le président français pour réfléchir à cette question. Il y a eu certes cette annonce dès vendredi soir de l'Élysée, la France remettra sans tarder 26 œuvres au Bénin, mais ça changera quoi la restitution de ce patrimoine dans la relation entre la France et les pays africains. En quoi ça peut améliorer, moderniser peut-être cette relation?
Je ne pense pas que ça changera grand-chose, mais c'est déjà le fait de restituer ces œuvres, pour moi, ça va réparer ce préjudice de la colonisation. Ça, c'est de 1. Alors, pour revenir à la question des relations franco-africaines, moi, personnellement, je n'attends rien de la France. Je pense que les présidents africains doivent être assez courageux pour protéger les intérêts des pays africains. Ce que Macron fait, c'est un peu ce que Donald Trump fait, il protège les intérêts de la France. Et il le fait très bien. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour protéger ses intérêts en Afrique ou ailleurs. Ce que nous manquons de faire, c'est ça. Les présidents africains sont là comme des bottes. Ils disent oui à tout ce que la France fait. Et c'est dommage. On ne va pas reprocher à un président occidental de protéger les intérêts de son pays. Il est élu pour ça. Et donc, ce que mon collègue venait de dire, le Gabonais, je ne suis pas d'accord avec dire qu'on attend beaucoup de la... On n'attend rien de la France, ouais, pour commencer.
Ouais. C'est ce que disait un auditeur, je le citais en introduction, à Bolo sur Facebook. Hein, l'Afrique n'attend rien d'un président français. Béranger, merci beaucoup. Bonne journée à Pointe-Noire. Mohamedou, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute la communauté RFI.
Merci, vous êtes à Ouagadougou, Burkina Faso. Vous dites qu'un an après le discours de Ouaga, le bilan est mitigé.
Absolument, le bilan est mitigé. Je me réjouis comme mon prédécesseur sur la question du rapatriement des biens culturels africains. C'est une promesse que le président Macron a faite, qu'il a tenue. Je pense que les peuples africains lui en sont reconnaissants.
Alors vous savez quoi, Mohamedou, je vous interromps une seconde, le réseau n'est pas bon. Vous allez raccrocher, on vous rappelle, on va essayer de vous retrouver dans un instant dans de meilleures conditions pour que tout le monde puisse comprendre évidemment vos propos. Mohamedou, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, un an après ce discours, diriez-vous qu'on se dirige vers une nouvelle relation entre la France et les pays africains?
Nouvelle relation, j'en doute quand même, parce que moi, dans le discours de M. Macron, il y a un an de cela, j'avais quand même retenu que M. Macron souhaitait déclassifier, au niveau de la France en tout cas, tous les documents liés à la mort de M. Thomas Sankara. Et un an après, force est de constater qu'aucun document n'a été déclassifié, en tout cas, officiellement, rien n'a été dit dans ce sens-là, oui. Ni... les autorités burkinabées, ni la presse n'a relaté quoi que ce soit dans ce sens. Mmh. Et j'avoue que je suis très surpris, voire même très déçu, que M. Macron ait pris un engagement aussi solennellement et qu'un an après, il n'est pas encore honoré cet engagement.
Et on se souvient d'ailleurs, on se souvient, Mamadou, pour l'avoir vécu en direct sur RFI, on avait diffusé le discours, on était en édition spéciale, de l'enthousiasme des étudiants burkinabés à l'annonce de cette promesse du président Macron. Les documents relatifs à l'assassinat de Thomas Sankara seront déclassifiés à l'intention de la justice burkinabé, qui aura librement accès, avait-il dit, il y a tout juste un an devant les étudiants de Ouagadougou. À votre avis, pourquoi tenir de tels propos s'ils ne respectent pas ensuite les engagements?
Bon, je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a pris cet engagement et encore plus pourquoi est-ce qu'il ne le respecte pas. Vous savez, M. Sankara, quand même, est un grand symbole africain et c'est un sujet qui ne tarde pas à fâcher. Oui. Et pour moi, prendre un tel engagement, le minimum aurait été ne serait-ce que déclassifier une partie même des documents, mais rien n'a été fait dans ce sens-là.
Donc vous l'attendez encore sur ce dossier. Merci beaucoup Mamadou, bonne journée à Abidjan où il est 8h51. Diane, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez.
Béninoise, vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Vous êtes étudiante en deuxième année de thèse en droit international public. Et mon petit doigt me dit que vous allez nous parler des frais d'inscription universitaire pour les étudiants étrangers en France.
Et oui, effectivement, c'est pas très surprenant. Hein. On me pose une question sur la politique africaine de M. Macron depuis son accès à la présidence de la République. Je ne peux que répondre d'un point de vue d'une étudiante étrangère en France qui sait ce que des études dans ce pays lui ont apporté et qui ne veut absolument pas que cette porte soit fermée à d'autres personnes qui vont arriver et qui en ont besoin.
Mais vous avez l'impression, Diane, qu'il y a une contradiction entre son discours de Ouagadougou et l'annonce faite la semaine dernière par son Premier ministre, Édouard Philippe, concernant les frais d'inscription?
Bien sûr, parce qu'à Ouagadougou, M. Macron avait dit que des meilleures conditions seraient assurées pour les étudiants africains afin, en gros, de leur apprendre à pêcher et non pas de lui donner le poisson. Et aujourd'hui, les étudiants africains, le désarroi dans lequel ils sont, montre bien que ce qu'ils veulent, eux, c'est venir étudier, acquérir une éducation de qualité pour pouvoir soutenir le développement de l'Afrique. Alors, dire qu'on multiplie par 10, voire plus, les frais d'inscription pour les attirer, excusez-moi, mais c'est pas très cohérent.
Oui, 170 euros les frais d'inscription actuellement pour une inscription en licence, et de mémoire, dès la rentrée prochaine, les frais d'inscription passeront à 2770 euros, soit une augmentation de 1600%, ce qui est évidemment une hausse conséquente.
C'est énorme. Alors, pour se donner bonne conscience, le Premier ministre français dit que les frais des étudiants étrangers sont quand même pris à hauteur des deux tiers, pris en charge par l'État, mais il reste quand même 2700 euros à la charge d'un étudiant étranger qui vient d'un pays dans lequel le SMIG est à 100 euros à peine.
Oui.
Donc c'est clairement dissuasif. Donc dire qu'on veut aider les étudiants africains à devenir autonomes, à acquérir une intelligentsia qui permettra de développement le continent et les dissuader de sortir, d'aller dans des pays riches, de voir comment ça fonctionne pour pouvoir s'adapter, parce que alors, dans son discours, il disait que, il citait une écrivaine qui disait que les Africains doivent tracer leur propre chemin. Mais excusez-moi, on ne trace pas un chemin quand on n'a pas des repères corrects, quand on n'a pas une boussole correcte. Et dans un monde où tout est conçu pour les riches et par les riches, les pauvres, s'ils veulent s'en sortir, doivent apprendre à savoir comment fonctionnent les riches.
Donc pour vous, la décision en tout cas du gouvernement français vous semble injuste. Merci, bonne journée Diane et bon courage dans vos études. Je rappelle que vous êtes en deuxième année de thèse en droit international public. 9h54, il nous reste 6 minutes. Souleymane, bonjour.
Bonjour, monsieur Watt.
Alors, vous disiez au Standard que Emmanuel Macron, a une réelle volonté de modifier les relations entre la France et les pays africains.
Effectivement.
Eh bien, je vous écoute. Expliquez-nous, détaillez.
Bon, c'est surtout sur le plan politique. Hein. C'est surtout sur le plan politique.
Eh bien, allez-y, Souleymane.
Bon, sur le plan politique, j'ai constaté vraiment des débuts encourageants. Allô?
Eh bien, je vous écoute, Souleymane. Vous savez, si profitez-en. Vous nous appelez, on vous donne la parole. Donc, allez-y, profitez-en, enchaînez. C'est jamais facile de parler à la radio, hein, je suis d'accord avec vous. Alors, dites-moi, sur un plan politique, donnez-moi un exemple concret.
Un exemple concret, le discours à Ouaga. C'est un discours qu'il adresse à presque, enfin, disons, à tous les présidents francophones de l'Afrique.
Bon, je lis le commentaire de Denis sur Facebook, qui nous dit que ce discours a certainement changé, tout simplement parce que la France ne peut plus assumer ouvertement son statut de puissance tutélaire qui poursuit une politique néocoloniale, mais le fond reste fondamentalement le même, rien n'a changé, il n'y a véritablement aucune rupture, nous dit cet auditeur, c'est toujours la politique des intérêts supérieurs de la France au détriment de ceux des pays africains, qui survivent à travers les mécanismes de l'aide au sous-développement. Au lieu de parler d'aide au développement, Denis est provocateur et nous parle d'aide au sous-développement. Germinal, toujours sur Facebook, nous dit que une nouvelle relation France-Afrique, il faut être mouton pour y croire. Et sur la question du franc CFA, Emmanuel Macron fait l'autruche, nous dit Germinal, en faisant croire au monde qu'il n'a pas son mot à dire sur la sortie des pays africains de cette monnaie. Mais la réalité est tout autre, nous dit Germinal sur Facebook, et on se souvient effectivement qu'il avait été interpellé par les étudiants sur le franc CFA, et que lui-même avait dit « Écoutez, il ne me revient pas à moi, président de la République, de décider si les pays africains doivent ou non rester au sein du groupe franc CFA, c'est au chef d'État eux-mêmes de décider. » Au standard, 33 9 693 693 72. On retrouve Mohamedou.
Oui.
À Ouagadougou, alors.
À Ouagadougou, toujours. J'espère que le réseau sera bon cette fois-ci.
Il est meilleur, on vous écoute.
D'accord. Je voulais essentiellement intervenir sur deux points pour exprimer mon sentiment mitigé. Le point était déjà pris en compte par mes prédécesseurs. Il s'agit de la question des frais de scolarité, qui, comme vous l'avez dit, ont explosé 1600%. C'est astronomique. Pour ne pas dire un recrutement des étudiants africains en France. Et sur la deuxième question sur laquelle je voulais intervenir également, c'est la question de la déclassification des dossiers du président Thomas Sankara. Oui. Le président Macron nous l'a promis, mais je suis très dubitatif. Je pense que même s'il y a déclassification, ça ne fera pas avancer le dossier Thomas Sankara.
Ah bon?
Qui est présentement
pourquoi les juridictions. Pourquoi dites-vous ça? À l'époque, tout le monde avait salué les propos d'Emmanuel Macron concernant la future déclassification de ces documents.
Tout à fait. Et moi-même, j'avais applaudi cette décision.
Alors, pourquoi dites-vous aujourd'hui, si jamais il passe à l'acte, ça ne changera rien de toutes les façons, on ne connaîtra pas la vérité?
D'accord, je m'explique. RFI a fait un très bon document sur l'affaire Thomas Sankara. Je l'ai lu sur le site de RFI. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Il y a éventuellement une implication française dans cette affaire Thomas Sankara. Et je pense que ce serait de tirer une balle dans le pied que la France déclassifie les dossiers qui peuvent être compromettants pour elle-même. Mmh. Donc, de ce point de vue, je pense que la France ne déclassifiera pas des documents qui peuvent prouver sa culpabilité ou son intervention directe ou indirecte dans l'affaire Thomas Sankara.
Ça c'est dit, vous l'avez dit, et vous l'avez bien dit en direct sur RFI. Sur Facebook, il y a Blaise qui nous dit « Emmanuel Macron a un langage franc et direct. Il fait de la politique intelligente. Les Français gagneraient à prendre soin de lui. » Voilà, c'est ainsi qu'on va terminer l'émission. Désolé pour Patrick, il est à Kinshasa, il voulait revenir sur les relations entre Paris et Kinshasa. Abdoul Karim souhaitait lui nous parler du développement. Il a l'impression que, oui, le président Macron avait promis un partenariat d'égal à égal, davantage d'investissements, notamment dans le secteur agricole, et lui, à son niveau, à Niamey, il n'a pas constaté d'amélioration, en tout cas de changement. En même temps, ça ne fait qu'un an que ce discours a été prononcé. Merci à tous de votre fidélité. Demain, on parlera du Togo, où la principale coalition de l'opposition a décidé de boycotter les élections législatives du 20 décembre. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses. Voilà ce qu'a déclaré la coordinatrice de la coalition. L'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la commission électorale, la stratégie du boycott, la politique de la chaîne.